Quatrième partie. 3 années après le meurtre. Septembre. Chapitre 69. Chute. L'automne s'installait sur Genève. Dans un supermarché du centre-ville, Anastasia garnissait les rayonnages de fruits. Sa sœur Irina la rejoignit. Elles travaillaient toutes les deux dans le même magasin. C'était Irina qui devait trouver cet emploi.
« Viens m'aider !» lui dit Irina avec bienveillance. « Il manque du monde à la caisse !»
Anastasia suivit sa sœur docilement. Irina avait été très gentille avec elle. Après les événements, elle l'avait hébergée quelque temps, jusqu'à ce qu'elle se trouve un petit appartement dans le quartier de la Servette. Elle commençait à se faire peu à peu à sa nouvelle vie. La fin de Corfou, 3 ans plus tôt, avait été la fin de tout. Depuis, elle avait quitté Lev. Et elle avait divorcé de Macaire. La procédure avait été d'une simplicité absolue. Elle avait renoncé à tout, n'avait réclamé aucune pension. Elle n'avait voulu que la dissolution de leur mariage et pouvoir tirer un trait sur les 15 dernières années de sa vie. Elle se sentait très seule. Irina lui disait souvent « Tu retrouveras vite quelqu'un, ne t'en fais pas !» Mais elle n'avait pas envie de retrouver quelqu'un. Elle voulait le retrouver, lui. Elle voulait retrouver Lev, le jeune bagagiste rêveur du palace de Verbier. Elle ne voulait pas de Lev Levovitch le banquier, ni du docteur Kazan, ni de Wagner, ni de Signor Tarnogol. 3 années plus tôt, mi-juin. Immédiatement après leur arrestation à Corfou, Lev et Anastasia furent extradés vers Genève. Mais leur inculpation tourna court. Lev, avec le talent des plus grands avocats, démonta pièce par pièce les accusations portées contre eux. Il n'existait aucune preuve concrète qui les incriminait du meurtre de Jean-Bénédicte Hansen. Ils étaient mis en palace de Verbier cette nuit-là, mais comme beaucoup d'autres. Le pistolet d'Anastasia retrouvé sur place, elle assurait l'avoir égaré et de toute façon, la corrosion l'avait trop abîmé pour qu'on puisse prouver formellement que c'était l'arme du crime. « Je voudrais comme vous comprendre ce qui s'est passé dans la chambre 622 du palace de Verbier », assura Lev au lieutenant Sagamore. « Ne vous fichez pas de moi, Levovitch. Jean-Bénédicte Hansen avait découvert que vous étiez Tarnogol, c'est ça ?»«
Que je suis Tarnogol ?» s'offusqua Lev. « Vous me répétez cette insanité depuis que vous avez débarqué à Corfou. Que signifie être Tarnogol ? Vous êtes vous et je suis moi. Arrêtez votre cirque, Levovitch. Nous savons tout !»
Et vous n'avez aucune preuve de ce que vous avancez.
Nous avons retrouvé cette bague qui vous appartient.
Et vous avez effectivement retrouvé une bague m'appartenant, que je tiens de ma mère et qui se trouvait dans le tiroir de mon bureau à la banque. Je n'y vois rien justement d'extraordinaire.
Un témoin affirme que cette bague était la possession de Tarnogol.
Votre témoin se trompe. Un seul témoin, c'est un peu maigre d'ailleurs. Cela pourrait même être un témoignage arrangé.
Du mobilier appartenant à Signor Tarnogol a été retrouvé dans un garde-meuble loué par vous. Les déménageurs chargés du transport ont formellement identifié les objets.
J'ai prêté mon garde-meuble à Tarnogol.
Vous êtes Tarnogol,
répéta Sagamore qui tenait bon.
Il était un personnage inventé par votre père. Tout comme ce Wagner et ce docteur Kazan, nous avons leur description dans le livre de votre père.
Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Ils étaient des clients du palace.
Allez donc vérifier les registres de réservation de l'hôtel. Vous verrez que je dis la vérité. Mon père faisait des croquis des clients. En tous les cas, je suis épouvanté d'apprendre que Kazan n'avait pas de diplôme de médecin. J'espère que vous mettrez la main sur ce charlatan.
Vous aggravez votre cas, Levovitch.
Au contraire, je déplore cette arrestation arbitraire qui aura des conséquences désastreuses pour vous, lieutenant.
Anastasia avait répondu aux questions de Sagamore avec le même aplomb.
Ce que je faisais au palace la nuit du meurtre? Nous avions prévu de nous enfuir, Lev et moi.
Je me trouvais lâche de quitter mon mari en lui laissant un misérable mot sur le lit de notre chambre à coucher. Alors je suis venu le voir à Verbier pour le lui annoncer. Sagamore ne pouvait que constater que les affirmations d'Anastasia correspondaient à ce que Macaire et Besnier avaient déclaré précédemment.
« Vous avouerez que c'est étrange de disparaître en pleine nuit, » releva Sagamore.
Après avoir parlé à Macaire, je ne voulais pas rester plus longtemps au palace. À quoi bon? Qu'il me supplie et me fasse une scène pour me retenir? Qu'il me fasse un chantage au suicide? Je voulais partir tout de suite.
Pourquoi Lev Levovitch n'est-il pas parti avec vous ce soir-là? Il voulait terminer le grand week-end. L'élection n'avait pas encore eu lieu à cause de l'intoxication générale. Et puis il voulait quitter la banque avec élégance, pas s'enfuir comme un bandit. Les interrogatoires tournèrent rapidement en rond. Et finalement, Sagamore n'eut plus d'autre choix que de relâcher Anastasia et Lev. Ils quittèrent ensemble le siège de la police judiciaire genevoise sur le boulevard Karl Vogt. Ils firent quelques pas sur le trottoir. Lorsqu'ils furent à l'abri des oreilles indiscrètes, Anastasia fixa Lev d'un regard rempli de colère et lui dit « Qui es-tu, Lev Levovitch? Le docteur Kazan? Signor Tarnogol? Wagner? Je ne sais plus qui j'ai en face de moi. Je sais que tu as menti à la police, Lev, mais tes numéros de charme ne marcheront pas toujours. Je veux savoir pourquoi tu as fait tout ça. » Lev eut un air grave. « Je n'avais d'abord pas prévu de faire vivre le personnage de Tarnogol très longtemps, » expliqua-t-il. « Mais le jour de la mort de mon père, j'ai décidé de prolonger la supercherie. Tant que Tarnogol serait vivant, mon père le serait en quelque sorte aussi. Je me suis pris au jeu peu à peu. Être Tarnogol, tromper tout le monde à la banque, me procurait des sensations extraordinairement grisantes. Lors de chaque séance du conseil, je ressentais des poussées d'adrénaline. » Et puis Abel et Besner étaient furieux contre Macaire de cette situation, et je dois avouer que ce n'était pas pour me déplaire. Mais ça ne t'a pas suffi, et tu as ajouté le docteur Kazan. Macaire cherchait un psy. J'y ai immédiatement vu l'opportunité de faire vivre un autre personnage de mon père, le docteur Kazan, médecin et psychanalyste berlinois. J'avais à ce moment un avantage de taille. Les actions de la banque détenue par Tarnogol me donnaient de très larges moyens financiers. J'ai ainsi loué sous une fausse identité un appartement, place Claparède, que j'ai transformé en cabinet de consultation. J'ai mis une plaque sur la porte, pris une ligne de téléphone, qui allait vérifier. Anastasia était atterrée. « Et Wagner ? » interrogea-t-elle. « Et cette histoire de service de renseignement, c'était donc toi aussi ?» Lev acquiesça. « À quoi bon nier ? » ?»« Tout était inventé. Wagner, la P30, ses prétendues missions... Il n'y a jamais eu de double meurtre à Madrid. Ce pauvre informaticien se porte très bien. En échange d'un peu d'argent, sa femme et lui ont accepté que je simule leur assassinat et que je prenne une photo, faussant à l'appui. J'ai inventé un prétexte. « Mais qu'est-ce que tout cela t'apportait ?» demanda Anastasia. La satisfaction de contrôler la vie de Macaire, dont j'avais l'impression qu'il m'avait pris ce que j'avais de plus cher. Toi. Et grâce au docteur Kazan, je connaissais son intimité. Quant à Wagner, chaque fois qu'il envoyait Macaire en mission hors de Genève, cela l'éloignait un peu de toi. Depuis que nous nous étions retrouvés, toi et moi, à l'enterrement d'Abel, j'avais prévu de mettre un terme à cette mascarade. Wagner avait expliqué à Macaire qu'à son accession à la présidence, il devrait renoncer aux missions sur le terrain. Anastasia, bouleversée, murmura. « Mais si tu tenais tant à moi, pourquoi m'as-tu ignoré pendant toutes ces années ?»« Parce que je pensais que c'était toi qui m'ignorais, que c'était toi qui voulais pas me voir. » 15 années de non-dit. Voilà où cela nous a menés. Lev, est-ce que tu as tué Jean-Bénédicte parce qu'il avait découvert ton secret? Non. Je ne sais plus si je peux te croire. Il y a eu tant de mensonges. Pose-moi toutes les questions que tu veux. Que s'est-il passé la semaine avant le meurtre? Avais-tu réellement prévu de partir avec moi? Je ne rêvais que de m'enfuir avec toi, Anastasia. Mais je savais que Macaire nous rendrait la vie impossible. À moins d'arriver à lui faire échanger la présidence contre toi. Tu veux dire de la même façon qu'il t'avait cédé ses actions? Oui, je savais combien il voulait cette présidence. Il était prêt à tout pour l'obtenir. C'était le meilleur moyen qui nous fiche la paix. Je connaissais bien le rédacteur en chef de la Tribune de Genève. Je lui promis d'organiser une interview avec le président français en échange de la divulgation d'une fuite dans l'édition du week-end. L'article affirmant que Macaire allait être élu président? Oui. Je voulais que Macaire soit au 7e ciel, pour mieux le faire tomber ensuite. Le lendemain, lundi, de très bonne heure, je suis allé à la banque sous l'aspect de Tarnogol, et je me suis arrangé pour que notre secrétaire, Christina, intercepte une fausse conversation téléphonique de laquelle elle déduirait que Macaire n'allait pas être élu président. Il me restait 5 jours avant la nomination du nouveau président. « Mais nous étions ensemble ce matin-là, » fit remarquer Anastasia. « Tu dormais encore, » précisa Lev. Je suis retourné à l'hôtel des Bergs, aussitôt mon numéro terminé. Ensuite, je n'ai plus qu'à attendre et à me jouer de Macaire. Tout a fonctionné à la perfection. Grâce au personnage de Tarnogol, j'ai pu le pousser à bout. Grâce au personnage de Wagner, j'ai pu découvrir son plan monté avec Jean-Bénédicte et visant à manquer d'écraser Tarnogol après le dîner de l'association des banquiers genevois. Raison pour laquelle Tarnogol n'a pas assisté au dîner. « Mais je vous ai vus ensemble, Tarnogol et toi, dans l'hall de l'hôtel des Bergs, » dit Anastasia. « Alfred a endossé le costume de Tarnogol ce soir-là, » expliqua Lev. « Alors, le vendredi matin, » demanda Anastasia, « lorsque nous nous sommes retrouvés à la gare Cornavin pour partir ensemble, et que tu m'as dit que Tarnogol était prétendument en train d'empêcher l'élection de Macaire, tu n'avais en fait pas l'intention de partir avec moi. » C'est Macaire qui empêchait sa propre élection, parce qu'il me résistait. Le vendredi matin, grâce au personnage de Wagner, j'ai découvert qu'il était persuadé de pouvoir convaincre Tarnogol de le nommer président. Macaire ne semblait absolument pas décidé à accepter le marché de Tarnogol et d'échanger la présidence contre toi, Anastasia. Je devais trouver un moyen de le faire céder. J'ai donc dû reporter notre départ. Et j'en ai profité pour chercher des éléments compromettants contre Macaire en organisant un cambriolage. « Quoi ? Le cambriolage, c'était toi ?»« Alfred, pour être précis, sur mon ordre. »« Alfred ?» s'étrangla alors Anastasia qui comprit que, ce jour-là, elle avait reconnu les yeux d'Alfred sans pouvoir l'identifier. « Comment as-tu pu ?» Lev reprit. Alfred avait épié Macaire et il avait vu la combinaison du coffre. « Je voulais récupérer le cahier des notes de Macaire pour faire pression sur lui. »« Je ne savais pas ce que contenait ce cahier. » Mais je songeais que cela devait être important pour qu'il y consacre tant de temps et qu'il le range dans son coffre. Alfred devait donc mettre à profit notre rendez-vous à la gare pour récupérer le cahier. Sauf que le cahier n'était plus dans le coffre. Il m'a alors téléphoné pour savoir ce qu'il devait faire. Comme je me doutais que tu rentrerais chez toi, je lui ai dit de t'attendre et de te faire peur. Je voulais lui faire croire que les services secrets allaient s'en prendre à lui s'il ne récupérerait pas la présidence. Comment as-tu pu faire ça, Lev? « J'ai fait ça pour nous. »« Tu as fait ça pour toi !» répliqua Anastasia. Ils se fixèrent en silence. Lev avisa un taxi et lui fit signe de s'arrêter. « Viens, » dit-il à Anastasia. « Allons quelque part pour parler de tout cela tranquillement. » Mais elle resta en retrait. « Je ne repartirai pas avec toi, Lev. Anastasia, va-t'en, je t'en supplie. » Il obéit, la tête basse. Il s'engouffra dans le taxi qui l'attendait et il disparut. Elle attendit qu'il fût loin pour éclater en sanglots. Elle se retrouvait seule, à nouveau. Elle marcha au hasard et arriva bientôt à la place du cirque. Elle vit alors le Rémors, ce café où elle avait passé tellement de temps à l'époque de ses débuts avec Lev. Ne sachant ni où aller ni que faire, elle pénétra dans l'établissement. Elle s'arrêta net sur le pas de la porte, en voyant l'un des clients attablé qui la dévisagea aussi. Stupéfait. C'était Macaire. Elle s'assit face à lui. Ils restèrent tous les deux muets un très long moment. Puis Anastasia murmura « Je suis désolé pour tout. Je suis désolé aussi. Comment vas-tu ? Beaucoup mieux. J'ai refait ma vie, je suis très amoureux. Je suis heureuse pour toi. » Ils discutèrent un long moment. Ils décidèrent de leur rapide divorce. Ils voulaient tous les deux tourner la page rapidement. Avant de se séparer, Macaire demanda sur le ton de la confidence « Anastasia, il y a une chose que je dois savoir. Est-ce que tu as tué Jean-Béné ?»«
Non, » assura-t-elle. « Pourquoi aurais-je fait une chose pareille ?»«
À cause du message que tu as glissé sur la porte de ma chambre. Au moment de m'enfuir du palace, au moment de tout quitter, j'ai eu envie de te laisser un mot pour te dire que tu avais compté malgré tout. »«
Malgré tout ?» s'insurgea Macaire, piqué au vif.
« C'est élégant.
Je n'ai pas eu la vie que je voulais, Macaire. Je n'aurais pas dû me marier avec toi. Je t'ai fait perdre du temps et je le regrette. Le temps est si précieux, la vie est si courte. Il faudrait les consacrer à aimer vraiment, à aimer de tout son cœur.
Tu ne m'as donc jamais aimé, hein ?
Je ne t'ai jamais aimé comme tu aurais voulu que je t'aime. C'est pour cela que je voulais te demander pardon. »
Elle embrassa Macaire sur la joue et s'en alla. 3 mois s'écoulèrent. Par une belle soirée du début septembre sur la place de Neuve, où se trouvait le grand théâtre, le public affluait pour assister à la première de Nabucco. Il se disait que cette nouvelle adaptation de Verdi était absolument exceptionnelle et le tout Genève s'était pressé à l'opéra.
Parmi les spectateurs, Macaire et Arma, rayonnants, arrivèrent main dans la main pour prendre place dans l'une des meilleures loges de la salle. À l'entracte, Macaire eut envie d'aller prendre l'air, tandis qu'Arma préféra rester dans la loge. Il sortit seul sur le perron de l'opéra où il tomba sur Lev. Les deux hommes éclatèrent de rire.
« Une cigarette ?» proposa Lev.
« Pourquoi pas ?»
accepta Macaire. Ils s'isolèrent des autres spectateurs et allèrent s'asseoir sur les marches en pierre, admirant le parc des bastions. Macaire dit alors à Lev.
« Merci, Wagner. »
Lev sourit.
« Merci pourquoi ? »
interrogea-t-il.
« J'ai été heureux grâce à toi. À chacune de mes missions, j'ai vibré. J'ai eu l'impression d'exister plus fort. Ces moments, même s'ils n'ont pas existé, je les ai vécus vraiment. »
Après une hésitation, Lev demanda
« Tu ne m'en veux pas ?»«
Au contraire !»
assura Macaire.
« Tu sais, après le départ d'Anastasia, ça a été difficile. Puis je me suis rendu compte que c'était ma chance de rebâtir ma vie, d'apprendre de mes erreurs et de vivre une existence plus proche de mes aspirations. Je me suis fiancé avec Arma. Je suis heureux.
« Quelle bonne nouvelle !» s'enthousiasma Lev. « Je suis très heureux pour vous. »
« Merci, ça me touche. Avec Arma, c'est un amour comme je n'en ai jamais vécu. J'espère que tu viendras au mariage. »
« Bien entendu, »
promit Lev.
« Merci, vieux frère. Au fond, nous sommes un peu comme deux frères, non ?»«
C'est vrai, »
acquiesça Lev. « J'ai été plus proche de toi ces 15 dernières années que de n'importe qui d'autre. D'ailleurs, est-ce que Tarnogol est invité au mariage aussi ?»
Macaire éclata de rire.
« Comment as-tu réussi à faire un tour pareil ? C'est prodigieux !»«
Mon père m'avait tout appris, » confia Lev.
« Mais c'était surtout un concours de circonstances. Tu ne m'as pas reconnu lorsque nous nous sommes croisés sur le perron du palace, et je voulais voir jusqu'où la supercherie pouvait durer. Tout cela est allé beaucoup plus loin que je ne l'avais prévu. »«
Et le docteur Kazan ?»
demanda Macaire.
« C'était un personnage de ton père aussi ?»«
Oui. Un jour, tu t'es ouvert à moi, je ne sais pas si tu t'en souviens. » Tu étais bouleversé par les conséquences de l'affaire Tarnogol. Tu te sentais déconsidéré par ton père et tu en souffrais terriblement. J'y ai immédiatement vu l'opportunité de faire vivre le docteur Kazan.
Le courant est aussitôt passé, dit Macaire.
Et ça a duré plus d'une décennie.
Macaire sourit.
Et Wagner, comment as-tu eu une idée pareille?
Un jour, tu as raconté au docteur Kazan combien tu rêvais d'une vie moins monotone que la tienne. Que tu voulais de l'action et pas passer ta vie derrière ton bureau. Et voilà qu'en séance du conseil, où siège mon personnage de Tarnogol, Abel nous explique que la police fédérale a sollicité l'aide de la banque dans le cadre d'une enquête de Scotland Yard concernant du blanchiment d'argent.
L'opération Noce de Diamant, comprit Macaire.
Tout à fait. Le conseil a décidé de donner suite à la demande de Scotland Yard, ce qui était hautement secret. Et moi, ça m'a donné l'idée de faire ressurgir du livre relié de mon père le personnage de Wagner, un agent des services de renseignement, séjournant régulièrement au palace pour espionner les riches clients étrangers. Wagner t'a demandé de lui transmettre des informations que le conseil avait en réalité déjà transmises à la véritable police fédérale.
D'où l'article dans le journal qui a donné toute sa crédibilité à Wagner.
Exactement, confirma Lev. C'était une aubaine inespérée. Et suite à cela, j'ai décidé de créer un univers autour de Wagner, et notamment la P30, qui, sous le prétexte d'être un service d'action clandestin, m'a permis de m'affranchir de tout gage d'existence officielle.
« Mais tout de même, tu savais que j'avais acheté une arme !» fit remarquer Macaire.
« Tu l'avais dit au docteur Kazan, donc à moi, donc à Wagner. »
« Et la lettre du président de la Confédération ?»
« C'était un faux, fabriqué par mes soins. »
Et mes rapports envoyés au Conseil fédéral?
Ce que Wagner appelait « rapports » n'était en fait que de longs courriers envoyés par la poste, auxquels l'administration répondait par une lettre standard, comme elle le fait avec tous les citoyens qui écrivent au gouvernement. En ce qui concerne tes missions, je n'ai fait que t'envoyer te promener à travers l'Europe aux frais de la banque. Tes comptes rendus concernant les bâtiments des administrations fiscales terminaient en général dans une poubelle du Grand Théâtre. Comme tu le sais, le meurtre de Madrid n'a jamais eu lieu. Quant aux avocats qui ont servi d'intermédiaire avec les agents du fisc à l'étranger, ils étaient mes avocats dans ces pays et de mèche.
Et les agents du fisc?
Des comédiens.
Et Pérez, l'agent des services de renseignement à Madrid.
Un comédien aussi.
Mince alors, s'amusa Macaire. Ce qu'on peut être idiot parfois.
Non, dit Lev, quand on veut vraiment croire à quelque chose, on ne voit que ce que l'on veut voir.
Macaire acquiesça.
Tu sais, Lev, je ne regrette rien de tout ce qui s'est passé pendant ces 15 années. Grâce à toi, j'ai vécu.
Ça me fait du bien de pouvoir tout te raconter, confia Lev.
Tu as réussi à vivre 4 vies.
Lev esquissa un sourire. Il y eut un instant de silence. Puis Macaire demanda
« Lev, que s'est-il passé dans la chambre 622 ce fameux soir de décembre ?»«
Je l'ignore. Je ne sais pas qui a tué Jean-Bénédicte. »
Depuis le foyer, on sonna le rappel des spectateurs dans la salle.
« Avant de retourner à l'intérieur, » dit Macaire, « j'ai une dernière question. C'est Wagner qui m'a mis sur ta piste à Corfou. Mais si Wagner, c'était toi, pourquoi avoir agi de la sorte ?»
Lev soupira. Il eut un sourire triste.
Il savait depuis le début que fuir avec Anastasia risquait de métamorphoser leur relation. Il savait que la passion des retrouvailles qu'ils avaient connues à Genève, la passion de l'interdit, de la nouveauté, ce besoin pour tous les deux de se voir sans cesse, de s'adorer lorsqu'ils étaient ensemble et de se désespérer mutuellement lorsqu'ils étaient séparés, tout ceci serait mis à mal par la promiscuité une fois réunis pour de bon à Corfou. Il fallait l'admettre. À ne rien faire, les journées étaient longues. Parfois, ils s'ennuyaient. Alors, pour prolonger cette passion mutuelle, ils avaient dû lutter. La comédie des beaux vêtements, du raffinement et des bougies, se préparer, se nettoyer, être à son summum. Il fallait se soumettre à cet indispensable carnaval, seul remède contre la fatalité de l'amour et le pouvoir dissolvant de la routine que subissent tous les amoureux lorsque, après avoir été 2 amants distincts, ils ne deviennent plus qu'un couple ensemble. C'est le début de la grande installation, le grand oubli de soi et de l'autre, la fin du grand mensonge qui leur avait permis jusqu'alors d'être parfaits, beaux, impeccables et sentant toujours bon, et qui soudain autorise tous les laisser-aller. Vêtements confortables, pantalons élastiques, bedaines qui poussent, poils disgracieux, mauvaise haleine.
« Chérie, tu peux m'apporter du papier toilette, s'il te plaît ?»
Le plateau repas devant le film du soir, s'endormir comme 2 sacs sur le canapé, la télévision à plein tube, avec bouche ouverte, ronflement et tout le tralala. Jamais, s'était promis Lev, pas avec Anastasia. Plutôt mourir. Pour s'en prémunir, il fallait un ennemi. Il fallait le mari jaloux qui débarque à Corfou, créer du drame, et pouvoir ainsi s'en aller ailleurs et se retrouver de nouveau. Tout recommencer à zéro. Un couple toujours neuf est un couple qui ne s'use jamais, avait songé Lev. À Macaire, il dit simplement « Je crois que Corfou était voué à l'échec. » Ils se levèrent.
« Sans rancune ?» demanda Lev à Macaire.
« Tu plaisantes ?» lui sourit Macaire. Les deux hommes échangèrent une poignée de main fraternelle. Macaire avait quelque chose de triomphal dans le regard. Soudain, il déboutonna sa chemise et dévoila à Lev un micro collé contre sa poitrine avec du ruban adhésif. Des policiers en civil surgirent de l'obscurité et se saisirent de Lev. Parmi eux, Sagamore.
« C'est ce qu'on appelle une confession, monsieur Levovitch, » lui dit-il avant de l'embarquer dans un véhicule banalisé.
3 ans plus tard, Anastasia ressassait souvent ces événements. Elle avait appris l'arrestation par la presse, comme tout le monde. Elle avait suivi le procès dans le moindre détail. Elle s'était rendue aux audiences autant qu'elle l'avait pu et avait conservé tous les comptes rendus publiés dans le journal. Elle avait espéré que Lev s'en sorte. Il s'en était toujours sorti après tout. Elle, qui ne croyait pas en Dieu, s'était surprise à prier. 3 ans plus tard, et alors qu'elle ne l'avait plus revu depuis, elle ne pouvait s'empêcher de penser à lui sans cesse. Les dimanches, elle partait à pied du quartier de la Servette et descendait la rue de Chantepoulet jusqu'au lac Léman et l'hôtel des Bergues. Elle se trouvait un banc et s'asseyait un long moment à observer le bâtiment majestueux. Elle scrutait le 5e étage de la façade, fixant les fenêtres de la suite où il avait vécu. Elle se demandait qui pouvait bien y habiter à présent. Puis elle reprenait sa marche et longeait le quai du Mont-Blanc jusqu'à l'hôtel Beau Rivage. Elle s'installait dans un fauteuil du salon, commandait un thé noir. Elle pensait à lui encore. Elle le revoyait, ici même, 18 ans plus tôt, faisant à sa mère le numéro du comte Romanov. Puis elle dépliait cet article de la Tribune de Genève, datant du procès, et qu'elle gardait dans son sac à main. Il y avait une grande photo de Lev, toujours superbe, arrivant au palais de justice, et juste au-dessus, ce titre. Chute du banquier vedette Lev Levovitch. Lev Levovitch a été reconnu coupable par le tribunal de première instance de Genève d'escroquerie, exercice illégal de la médecine et abus de confiance. Pour rappel, le banquier avait notamment siégé sous une fausse identité au sein du conseil de la banque Ebesner et avait trompé pendant des années la confiance de Macaire Ebesner, l'actuel président de la banque éponyme. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme et à la saisie de tous ses biens. Il lui est interdit à vie de travailler dans le domaine bancaire.